êtes sur Radio Orient. Bonjour à tous, votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, crise politique en France, quelques heures seulement après l'annonce de la composition du gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission. Nous écouterons sa déclaration ce matin à Matignon. Et puis des négociations indirectes entre le Hamas et Israël sont prévues en Égypte. Elles porteront sur un échange d'otages et de prisonniers ainsi que sur un cessez-le-feu. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qu'il a accepté. L'annonce de la composition de son gouvernement hier soir avait été critiquée de toutes parts, notamment par Bruno Retailleau, qui avait été reconduit au ministère de l'Intérieur. Sébastien Lecornu a pris la parole depuis Matignon ce matin, regrettant l'attitude de certains responsables politiques. Lecornu a pointé, je cite, le réveil de quelques appétits partisans, non sans lien avec la future présidentielle. Aujourd'hui, Marine Le Pen estime que la dissolution de l'Assemblée nationale est incontournable. La responsable du RN estime aussi que si Emmanuel Macron démissionnait, cela serait une sage décision. Pour sa part, LFI demande l'examen immédiat de la motion de destitution d'Emmanuel Macron et appelle à une réunion tous les partis de gauche. Le président égyptien salue Trump pour Gaza, c'est ce qu'a déclaré Abdel Fattah el-Sissi lors d'un discours à l'occasion de l'anniversaire de la guerre israélo-arabe d'octobre 1973. C'est à Sharm el-Sheikh que des représentants du Hamas et d'Israël doivent tenir des négociations indirectes sur un échange d'otages et de prisonniers ainsi qu'un cessez-le-feu. Au Maroc, de nouvelles manifestations hier dans plusieurs villes du pays pour réclamer la fin de la corruption et le départ du gouvernement, des rassemblements organisés par le collectif Gen Z212. En Syrie, des comités locaux ont désigné une partie des membres du nouveau Parlement, le premier depuis la chute de Bachar el-Assad. Les résultats préliminaires devraient être annoncés dans la soirée. Un processus de désignation cependant critiqué par des responsables de la société civile. Enfin, le prix Nobel de médecine décerné aux chercheurs américains Mary E. Brunko et Fred Ramsdell et aux japonais Shimon Sagaguchi. Le comité Nobel les récompense pour leurs recherches sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. C'est du jamais vu sous la Ve République. Quelques heures à peine après avoir formé son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis ce matin sa démission au président de la République. On ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas réunies. Ce sont les mots de Sébastien Lecornu. Il s'agit du gouvernement le plus bref, à peine plus d'une douzaine d'heures. Sa chute plonge la France dans une crise politique sans précédent depuis des décennies. On écoute le Premier ministre démissionnaire.
En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour trois raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender, et le cas échéant, de voter ou non un texte. Et cette rupture, je le dis, elle a été soulignée par un certain nombre d'observateurs, d'acteurs de la vie politique, certains opposants d'ailleurs qui le demandaient historiquement, mais elle n'a pas permis ce choc de se dire on peut faire différemment et on peut construire les choses différemment. La deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. C'est vrai des formations parfois du socle commun, c'est vrai aussi des oppositions. Or, nous l'avons dit, pas de coalition large, c'est un choix qui a été fait par les différentes formations politiques de l'opposition, de ne pas venir avec le socle commun au gouvernement, mais de permettre les débats et d'organiser ensuite les compromis, sachant que les compromis ne sont pas la compromission. Mais pour cela, évidemment, il faut changer d'état d'esprit et ne pas vouloir appliquer l'intégralité de son projet et de son programme. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide, et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle.
Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu. 7 octobre 2023, 7 octobre 2025, cela fera 2 ans demain, les attaques du Hamas en Israël, suivies de l'offensive d'Israël contre Gaza, des attaques qui ont provoqué la mort de 1219 Israéliens, pour la plupart des civils, 251 personnes avaient été enlevées. En 2 ans, plus de 66 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, en grande majorité aussi des civils. Le 7 octobre 2023 a eu des conséquences géopolitiques majeures et notamment un effritement du soutien international à Israël. Entretien avec François Mabille, professeur de sciences politiques, spécialiste des relations internationales, chercheur associé à l'IRIS. Il sera l'invité de Grand Angle après le flash de 18h.
Israël devient un État banal précisément parce que l'action du gouvernement, la répression des crimes contre les civils ne passeront pas au regard de l'histoire. Ils ne passeront pas dans le futur, quelles que soient les raisons invoquées. Et vous avez raison, le soutien massif qu'il y a eu de la part de la plupart des États, et notamment des États occidentaux après le 7 octobre, on voit bien que 2 ans plus tard, ce consensus n'existe pas. Et que finalement, les alliés, je veux dire, traditionnels d'Israël, à des degrés divers, avec des temporalités multiples, se sont éloignés d'Israël jusqu'à la reconnaissance de l'État palestinien par un certain nombre d'États, et non pas des moindres, ces dernières semaines.
Avec des conséquences sur les proxys de l'Iran le Hamas, bien entendu, le Hezbollah, et des conséquences directes donc pour le Liban, avec l'affaiblissement du Hezbollah hein, suite aux tirs israéliens.
Tout à fait. Vous savez, actuellement, les politologues parlent souvent de polycrise pour évoquer les circonstances que l'on traverse dans les relations internationales. Et j'allais dire que d'une certaine manière, le 7 octobre et la réponse israélienne constituent à la fois une polycrise et ont des conséquences qui sont elles-mêmes multiples. Elles sont multiples dans l'ordre des alliances politiques. Elles sont multiples dans l'ordre des légitimités politiques. Et au-delà, j'allais dire, des acteurs politiques, étatiques notamment, auprès d'un ensemble d'acteurs. Vous avez évoqué effectivement le Hezbollah. Il y a les différents États, Syrie, Iran et leurs différents proxys. Et de manière plus large également, les acteurs religieux. Donc on a là des conséquences dont on a du mal pour l'instant à bien mesurer des effets sur le long terme. On est là dans un segment particulier de cette multicrise avec le plan de paix proposé par Trump, mais dont personne aujourd'hui ne peut dire exactement quelles en seront les conséquences et comment l'ensemble des acteurs concernés se situeront sur le long terme par rapport à ces propositions.
Est-ce que ces attaques et ce qui en résulte a modifié certaines alliances au Proche et Moyen-Orient?
Oui, alors de manière plus ou moins profonde, on voit bien que il y a un axe israélien qui s'est dégagé, on va dire pro-israélien, avec le soutien, j'allais dire, pratiquement sans condition des États-Unis, une petite partie de l'Europe, mais que on a avec d'autres États, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, on est devant des oscillations entre une solidarité religieuse et des calculs stratégiques, l'utilisation de la cause palestinienne pour regagner éventuellement de l'influence régionale, mais tout ça sans s'engager militairement. On voit bien également qu'il y a des voisins immédiats, le Liban bien sûr, la Jordanie, l'Égypte, qui cherchent surtout à éviter une extension du conflit, tout en conservant tout de même une légitimité vis-à-vis de leurs opinions publiques qui restent, me semble-t-il, très, très pro-palestinienne. Donc la situation en 2025, c'est celle d'un équilibre instable, où chaque acteur cherche à préserver ses intérêts. Et puis si on élargit le regard et qu'on prend l'exemple de l'Europe, on voit bien que l'Europe a été en difficulté, demeure en difficulté, en étant finalement très divisée sur cette question, non pas, je dirais, sur le constat à l'égard de la politique israélienne ou du 7 octobre, mais sur la politique à suivre. Et ça dans un contexte où l'Union européenne a tout de même des difficultés à assumer une politique de défense commune, une politique de sécurité, une politique étrangère commune. C'est vrai sur ce sujet comme sur d'autres. Je pense notamment, bien évidemment, à la guerre en Ukraine.
François Mabi, professeur de sciences politiques, spécialiste des relations internationales, chercheur associé à l'IRIS, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à Mohamed Bizri à la technique. Bonne suite de programmes sur Radio Orient.